écoutez la French Radio.
Donc aujourd'hui, on est ravis d'accueillir Jean-Pierre Pinheiro, qui est directeur de l'Office du tourisme portugais en France et au Luxembourg. Et donc, on est ravis de l'accueillir sur l'antenne de la French Radio au Portugal, bien entendu. Et on pourrait presque dire, Jean-Pierre, bienvenue à la maison.
Bonjour, merci à vous tous. Et je suis ravi d'être avec vous et d'être quelque part un peu présent au Portugal, ce qui, depuis le début du confinement, devient difficile de se dire qu'on a vraiment hâte de pouvoir revoyager au Portugal et j'ai hâte de pouvoir retourner effectivement au Portugal. Et de vous entendre dire qu'il fait beau à Lisbonne, ça fait encore plus mal puisqu'aujourd'hui ici à Paris et en région parisienne, il pleut, on peut le dire, il pleut.
C'est un peu le yo-yo pour le moment.
Ouais, mais vous avez eu du très beau temps ces dernières semaines.
Voilà, hein, donc, c'est un peu le yo-yo partout.
Donc vous avez été quand même plus avantagé que nous. Il est quand même temps qu'un peu on récupère.
Ça va, ce week-end,
peu,
on a été gâtés.
Mais là, on a été un peu gâtés.
Mais pour le moment, c'est les montagnes russes.
Ouais,
on va
c'est
dire c'est
beau, pas beau, pas beau.
Voilà. Le matin, c'est un sweat. L'après-midi, c'est un t-shirt.
Voilà. À part tous nos amis qui nous écoutent en Algarve et qui, eux, sont quand même beaucoup plus
chanceux, bien
gâtés.
Sûr.
D'ailleurs, juste une allusion par rapport à l'Algarve. Le magazine Forbes, et ça, je pense que ça, vous allez rebondir là-dessus, à considérer que l'Algarve était la destination de choix idéale pour y vivre. Première destination au monde. Après, c'est le Mexique et après, c'est le Belize.
Peut-être pas dans l'ordre, mais oui.
Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, cette information, c'est le magazine Forbes.
D'ailleurs, Jean-Guillaume voulait bien une antenne au Mexique.
Moi, je suis étonné qu'il n'y ait pas le Pas-de-Calais, mais bon, après.
Arrêtez, on va se faire des ennemis. Alors, moi, Jean-Pierre, je serais ravi. Donc, effectivement, beaucoup de gens nous posent la question, pourrons-nous venir cet été au Portugal? Des questions, on en reçoit tout le temps.
J'imagine, oui.
Et ouais, tout le temps, des gens qui nous envoient des mails de Belgique, de France, du Luxembourg.
Du monde entier.
Du monde entier, peut-être pas, mais en tout cas, principalement de ces destinations qui se demandent...
Le monde francophone.
Ouais, beaucoup. Voilà. Et vont-ils pouvoir venir cet été?
Ceux qui ont envie de venir. Voilà. Il y en a beaucoup.
En fait, à cette question, il y a plusieurs éléments qu'il faudra prendre en compte. Certains de ces éléments sont déjà connus aujourd'hui et je vais vous en parler. D'autres, nous ne les maîtrisons pas puisqu'ils dépendent de décisions gouvernementales qui vont avoir lieu des deux côtés, hein, côté portugais et côté français. Ce que je peux vous dire, dans un premier temps, c'est concernant l'accessibilité. Alors, bon, avant de parler de l'accessibilité, quand même, au niveau des décisions des États. Comme vous le savez, le Portugal a entamé cette semaine sa première phase de déconfinement. Pour la France, ce sera la semaine prochaine. Donc, a priori, on pourra sortir de chez soi en France, mais vous l'avez sûrement déjà dit et vous en avez sûrement parlé dans vos antennes, il y a une première phase de déconfinement en France qui va être gérée avec des limitations à 100 km autour de chez soi et encore quelques restrictions. Donc, on n'est pas encore tout à fait libre de voyager, malheureusement. Donc, nous attendons qu'il y ait cette deuxième phase et dans 15 jours, le gouvernement français sera en mesure de nous dire quelles seront les décisions prises en ce qui concerne donc les ouvertures aux frontières et les déplacements au-delà de ces 100 km autour de chez soi et évidemment pour pouvoir sortir de France. Donc, partons du principe que sous une quinzaine de jours, en tout cas jusqu'à fin mai, tout cela se décante dans le bon sens. Eh bien oui, on pourra voyager au Portugal, d'abord parce que c'est un aspect sur lequel nous travaillons beaucoup en ce moment, c'est l'accessibilité, notamment les transports, l'aérien. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une reprise de l'aérien. Aujourd'hui, nous avons déjà des vols qui sont en machine, qui sont déjà en vente, mis en vente par les compagnies aériennes. Je pense par exemple à EasyJet ou Ryanair qui ont déjà des vols disponibles à partir du 8 mai, donc dans quelques jours. Nous avons pour Porto, pour notamment Lisbonne, la TAP Air Portugal qui reprend progressivement maintenant à partir de mi-mai avec un vol par jour et progressivement on va passer à deux vols par jour et sur Porto et sur Lisbonne. Alors, évidemment, nous sommes loin des capacités aériennes avant le Covid, mais ça reprend progressivement. De toute façon, la demande ne sera pas au même niveau, donc je pense qu'il va y avoir une phase effectivement de plus compliquée. Du côté de Air France et de Transavia, d'ailleurs j'ai discuté hier encore avec le directeur adjoint de Transavia qui nous confirmait qu'il y a une volonté de reprendre au plus vite les vols sur le Portugal. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils considèrent le Portugal comme prioritaire dans leur stratégie, Donc, ils ont vraiment une intention forte de réouvrir les lignes.
Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une bonne nouvelle à entendre, hein, que
oui,
le Portugal...
Oui, ouais. c'est bien contrôlé. Oui.
D'abord, ils considèrent que nous sommes une destination historique pour Transavia. Nous avons été parmi les premières destinations de Transavia hors France. Et ensuite, ils ont conscience, et nous l'ont dit clairement hier, qu'à partir du moment où nous avons un marché qu'on appelle mixte, c'est-à-dire à la fois de loisirs, mais aussi de tourisme, on va dire de soda, de le tourisme affinitaire, avec la population, très forte population qui existe de Portugais en France ou de luso-descendants en France, effectivement, ils ont conscience que ça remplit beaucoup leur vol et c'est une part importante de leur clientèle. De ce fait, ils mettent le Portugal comme destination prioritaire pour la reprise après Covid parce qu'ils ont conscience qu'il y a cette forte communauté portugaise qui va assurer une reprise avant même les touristes français. Les premiers retournés au Portugal, ce sera possible à la fin mai et juin, ce seront beaucoup les Portugais résidents en France. En plus, ils ont été privés de Pâques, ils ont été privés de tas de choses, ils ont hâte de retrouver les familles et retrouver le Portugal. Donc, c'est un point positif. En revanche, sur Madère, par exemple, là, ils sont un peu plus indécis, puisque là, il y a moins le marché affinitaire portugais, on est beaucoup plus sur du loisir pratiquement à 100%, et en plus, il y a la problématique des licences pour atterrir à Funchal, il faut une licence spécifique.
Oui, en avion. On rappelle que c'est un des aéroports les plus compliqués au monde pour...
Exactement. Il faut un agrément spécial pour y atterrir. Il ne faut pas qu'il y ait trop de vent, sinon ça fait un petit peu...
Ça fait peur.
Ouais, mais il n'y a pas de risque.
On bifurque dans la mer.
C'est le principal. Mais en tout cas, il faut un agrément spécial en tant que pilote. Ouais. Et dans la mesure où il va y avoir une reprise progressive de l'opération de l'aérien, ça signifie aussi que les propres pilotes ne vont pas tous pouvoir reprendre immédiatement parce qu'il y a des règles après tant de semaines d'inactivité, et des règles à suivre. Bon, je n'ai pas tous les détails, mais du coup, ils ne pourront pas remettre tous les pilotes dans l'opération
Bien
immédiatement.
Bon.
Mais en tout cas, pour le Portugal continental, c'est une bonne mesure. Et puis Air France aussi nous a annoncé la très très bonne nouvelle de nous dire qu'ils vont reprendre aussi leur vol. Et notamment le fameux CDG Faro, qui était une nouveauté avant Covid. Il a été vraiment coupé dans son élan, si je puis dire. Et ils reprennent au 1er juillet, donc le CDG Faro. Donc, c'est une très bonne nouvelle aussi.
D'accord. Donc, on va dire aujourd'hui, reprise des vols de l'aérien. La plupart des compagnies aériennes qu'on avait l'habitude de connaître, qui desservaient donc le Portugal, principalement au départ de Paris. C'est Air France, c'est la TAP et Transavia vont desservir l'ensemble, et EasyJet, qu'on n'oublie pas.
Ryanair, Vueling,
voilà,
Volotea,
toutes vont reprendre. Alors, une des questions aussi par rapport à ça, on a lu donc dans la presse, effectivement, alors déjà, les gens nous posent effectivement des questions, c'est quand est-ce que réellement les vols vont reprendre, donc quand va-t-on vraiment pouvoir venir? Mais alors surtout, il y a le problème du prix, parce qu'aujourd'hui, on parle des deux tiers, donc aujourd'hui, nouvelle norme qui serait applicable pour la plupart des compagnies aériennes, la règle des deux tiers, c'est-à-dire deux sièges occupés, un siège vide, on pense au siège du milieu, ce qui veut dire une augmentation potentielle du tarif.
C'est normal, parce que si on est assis tous un côté des autres, c'est un peu problématique.
Donc, comment ça va se passer?
Les tarifs vont être plus chers?
Cette question de l'aérien est un problème qui soulève un débat très actif en ce moment même au sein des différents gouvernements et des différents pays européens et au sein des compagnies aériennes. Du côté des compagnies aériennes, elles ont été très claires. Elles considèrent qu'une reprise est impossible avec ces conditions donc, de garantie de tiers, on va dire, de remplissage de l'avion.
C'est-à-dire que ce n'est pas rentable.
Voilà, parce que ce n'est pas rentable. Et cela va
donc, elles préfèrent ne pas faire voler les avions.
Voilà. C'est logique. Aujourd'hui, je ne peux pas prendre... Enfin, il est difficile de répondre à leur place.
On n'en est pas à ce moment-là du bras de fer, en fait, c'est ça.
Voilà, on peut imaginer que c'est aussi un petit peu... il y a un petit peu de bluff dans tout ça. C'est-à-dire qu'attention, si vous faites ça, on ne pourra pas. Il est évident que si ça arrivait, elles n'ont pas d'autre choix que de le faire. Et bien évidemment, au lieu de payer des allers-retours hors saison, parfois à 90 euros aller-retour sur les vols low cost, évidemment, on devrait doubler ou tripler ce prix et arriver plutôt à du 150, 200 euros, qui serait un prix, on va dire, de base ou moyennement constaté si on arrivait à cette configuration. Probablement. Mais la bonne nouvelle, c'est que même s'il y a eu un décret cette semaine ou ce week-end dernier au Portugal donc, demandant à ce que les compagnies aériennes appliquent ces conditions, la bonne nouvelle, c'est qu'on sait d'ores et déjà qu'il y a des discussions avec les différentes autorités, les différents pays européens, les différents partenaires européens pour revoir cela probablement à partir de début juin. Donc, l'idée, c'est que la décision qu'a prise le Portugal aujourd'hui est une décision qui est en cours de construction. Il va y avoir des adaptations en fonction de ce qui est décidé avec les autres partenaires européens. Ce ne sera pas une décision unilatérale. C'est en ce moment en cours. Évidemment, nous n'avons pas tous les éléments de ces discussions puisque ça se fait au plus haut niveau.
Donc vous faites principalement, Jean-Pierre, référence à Thierry Breton qui est commissaire européen et qui devrait justement prévoir une loi qui s'appliquerait à l'ensemble des pays européens.
Bah, ce serait mieux.
Oui, voilà, ça c'est une chose. Et de ce qu'on a cru comprendre, en tout cas des informations qui nous remontent, dans cette première phase de déconfinement en mois de mai, probablement aussi bien au Portugal qu'en France, ça devrait s'appliquer. De toute façon, on a tous conscience qu'au tout début de cette première phase de déconfinement, il n'y aura pas beaucoup de demandes pour voyager à l'étranger. Donc, les avions, de toute façon, ne seront pas pleins. Je doute qu'ils soient pleins dans ces premières semaines du mois de mai.
Ah, y a quand même beaucoup de gens qui ont envie de rentrer. Si je vous lis certains messages, c'est impressionnant. Voilà, le nombre de gens qui nous disent
oui, «
Je
qui
veux
sont
partir,
en France,
j'attends impatiemment le 11 mai pour
ceux
rentrer. »
Il y a ceux qui veulent rentrer voir la famille.
Il y a plein de gens qui nous disent « J'ai pris des billets d'avion, est-ce que les avions vont avoir lieu ?»
Après, il y a donc,
y a la voiture aussi.
La chance. Oui, déjà, il y a la voiture.
On
a la chance d'avoir une offre aérienne quand même assez conséquente malgré la crise sanitaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si on ne reprend pas à 100%, on a quand même plusieurs compagnies. On a le choix entre les vols de la TAP, de Ryanair, EasyJet, Transavia, Air France. Donc, ça fait quand même une offre qui devrait permettre, par rapport à cette demande qui, malgré ce qui peut vous remonter, évidemment, on sent qu'il y a des gens qui ont envie de repartir, mais par rapport à une situation normale, on va être loin des volumes. Donc, on devrait ne pas avoir trop de difficultés à maintenir ce 2/3. Probablement que les prix sont un peu plus élevés, de toute façon. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à partir de juin, il y a de fortes chances que ce ne soit pas maintenu comme préconisation, en tout cas, on l'espère.
Alors, une des questions qui revient, et d'ailleurs qui vient d'ailleurs d'arriver, je vais la lire quasiment. En fait, la personne demande simplement si on va avoir encore un contrôle donc aux frontières et est-ce qu'on sera mis en quarantaine parce qu'à l'heure actuelle
voilà,
le Portugal
avec l'Espagne,
voilà et le Portugal impose encore à l'heure actuelle une quarantaine lorsqu'on rentre au Portugal. Donc jusqu'à quand va s'appliquer cette mesure et est-ce qu'elle sera applicable cet été?
Non, normalement, tout ce qui est dit aujourd'hui peut ne pas être vrai dans 15 jours ou dans 3 semaines.
Même 24 heures après, on le précise, voilà. On a vu ça.
La plupart des gouvernements, en tout cas pour parler de la France et du Portugal, il établit un calendrier de déconfinement et tous les 15 jours, grosso modo, il y aura une remise en question en fonction de comment va évoluer la pandémie et comment aussi les Portugais et les Français vont se comporter. C'est très important, puisque si l'on n'est pas sage et si on ne fait pas les choses comme il faut, on risque d'avoir à nouveau des règles plus strictes qui nous tombent dessus. Donc, tout ça est un petit peu l'inconnu. En tout cas, dans la perspective, il est prévu, on va dire, qu'il y ait une ouverture aux frontières, tout comme pour la France, ce qui a d'ailleurs été annoncé un petit peu à la hâte ce dimanche dernier. On nous a expliqué que tous les ressortissants, même de l'Union européenne et de l'espace Schengen, qui partiraient en vacances à l'étranger à leur retour, enfin en tout cas pour les Français, donc à leur retour, ils seraient éventuellement mis en quarantaine s'ils portent des signes de la maladie. Et puis pareil pour les touristes, en l'occurrence portugais, ou du moins qui viendraient en France. Bref, ça a été démenti, et a priori, ça ne concernerait pas donc l'espace Schengen. Sauf si, en arrivant à la frontière ou en arrivant à l'aéroport, vous présentez des signes du Covid, là, on vous demandera d'assumer une mise en quarantaine par vos propres moyens ou par l'intermédiaire des hôtels qui ont été mis à disposition par le gouvernement français. Voilà.
Donc, à partir du mois de juin, on va dire, théoriquement, on peut venir, on n'a pas de quarantaine, on vient, on peut rester, on peut séjourner.
Évidemment, tout est encore
Tout est bien entendu relatif, voilà. Ça peut être modifié
si y a
en fonction.
Si de la pandémie.
Oui, parce que si ça reprend plus belle.
Jean-Guillaume, je vous vois, vous avez des questions.
Oui, moi j'ai des questions. Moi j'ai une question. Je crois que le Portugal, en 2019, a accueilli 27 millions de touristes. Et quelles sont leurs provenances en majorité? Quels sont les 3 ou 5 pays les meilleurs, entre guillemets, fournisseurs de touristes au Portugal?
Alors, le premier marché émetteur vers le Portugal, c'est l'Espagne. Ça s'explique par le fait d'être notre voisin. Effectivement, c'est l'Espagne. L'autre grand marché qui vient juste derrière l'Espagne, c'est le Royaume-Uni, marché historique. On parle de à peu près 4,2 millions de mémoire de visiteurs par an. Mais la bonne surprise, qui n'est plus une surprise parce que ça date pas d'hier, mais en tout cas la bonne nouvelle, c'est que le marché français vient juste en troisième position, donc juste derrière l'Espagne et la Grande-Bretagne, sachant qu'on compte environ 3,2 millions de visiteurs français par an au Portugal. Et donc c'est un marché très important. Et en revanche, en termes de recettes, ce qui est intéressant, c'est que tout en étant troisième en termes de volume, de clients, donc de touristes, nous sommes deuxième en termes de recettes. C'est-à-dire que nous dépensons plus
que les Anglais.
La moyenne des marchés européens. Le Français qui vient au Portugal aime se balader, aime visiter, aime aller
dépenser
dans les musées,
l'argent,
dans
oui.
les restaurants, contrairement à d'autres types de clientèle plus du nord de l'Europe, qui vont peut-être plus s'enfermer dans les resorts en Algarve ou à Madère, sans forcément se balader, aller à la rencontre de la population. Et ça, les Français, ils adorent se balader. Ils aiment beaucoup faire des balades en voiture, ce qu'on appelle des autotours ou des voyages en circuit. Ça, c'est vraiment ce qu'ils préfèrent.
Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est-à-dire que...
Oui, c'est avantageux pour le pays.
Les premiers contributeurs du marché portugais sont européens.
Parce que tout à fait. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Et en plus, même par rapport à la situation que l'on connaît aujourd'hui et à la reprise éventuelle, à tous les différents scénarios de reprise qu'on peut imaginer, le marché français a ce potentiel-là. C'est-à-dire qu'il n'est pas uniquement concentré sur l'été avec le côté soleil, plage,
hôtel,
club.
C'est toute l'année.
Ce qui va poser d'ailleurs problème parce que ce côté confinement dans des resorts, aujourd'hui, les gens vont peut-être être un petit peu réticents, en tout cas dans un premier temps, de venir s'enfermer dans des resorts du fait donc de la situation sanitaire. Donc on a plutôt là un touriste français qui voyage, qui aime aller à l'intérieur du pays, en Alentejo, dans la région centre. Et là, même en été, on sera probablement dans des situations où on sera loin des foules, loin de la pression que nous met cette pression sanitaire, cette peur du virus. Donc d'ailleurs, on insiste beaucoup là-dessus, sur le fait qu'on a un potentiel avec le Portugal, avec l'intérieur du pays, tout le Tagne, même l'Algarve. Il y a la côte, il y a la mer, mais il y a aussi l'arrière-pays de l'Algarve qui est magnifique. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Et je pense qu'il y a là une carte à jouer,
oui.
Pour cette clientèle française. Donc. Et
oui,
surtout,
très
diversifié. Elle voyage toute l'année. Elle va au Portugal toute l'année, quasiment, en flux tendu. Ce qui veut donc dire que pour la reprise aussi après Covid, pour
ça
le
va
dernier
se
faire
trimestre doucement.
Et le début 2021, on va avoir une reprise de la clientèle assez rapidement.
Et alors Donc on risque d'avoir quelques vols et de plus en plus de vols. A priori, des clients, potentiellement, ils sont là. Et les hôtels, en revanche, comment ça va se passer? Ou les hébergements, en général, au Portugal, comment ça va se passer aujourd'hui? Tout est fermé et tout reste fermé.
Oui, alors, nous avons lancé une campagne pour inciter à rassurer justement les touristes qui viendraient nous visiter. C'est le fameux label, on peut appeler ça comme ça, label donc Clean and Safe, qui voudra d'une part rassurer les clients pour leur dire voilà, cet hôtel, cet établissement, mais aussi dans une deuxième phase, ce restaurant, ce café, répond aux normes sanitaires de sécurité Et ça, c'est un point très positif. Depuis le lancement, il y a à peine une semaine de ce label, plus de 1000 entreprises, essentiellement donc de l'hébergement, ont déjà fait la demande de ce label. Donc ça, c'est une première chose.
Ça, ça consiste en quoi ? Qu'est-ce qu'il y a derrière le label en termes de mesures sanitaires ?
En fait, ce label répond à des demandes strictes de critères en termes de nettoyage, de mise à disposition du matériel, que ce soit les masques, les gels hydrauliques, alcool hydraulique, pardon, pour à la fois le personnel qui travaille dans ces établissements, que ce soit l'hôtel ou le restaurant, mais très important pour les clients. C'est-à-dire qu'à partir de demain, lorsque l'hôtel sera ouvert, l'hôtelier devra fournir aux clients, à ses hôtes, le matériel en question. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Il y a tout un tas de critères, parce qu'il y a 3 pages de critères à suivre. Il faut rappeler que ces critères ont été déterminés à la fois par Tourisme du Portugal, mais aussi par l'ASAE, cette agence de sanitaire portugaise, et aussi la Direction générale de la santé portugaise, qui donc ont travaillé conjointement pour mettre en place ces critères. Ces critères seront surveillés, c'est-à-dire qu'il y aura des surveillances aléatoires par les équipes à la fois de l'ASAE, mais aussi de DECO, de Tourisme du Portugal. Donc, il y a vraiment un effort de fait pour rassurer le client. Dans toutes les études que l'on mène en ce moment auprès de la clientèle, auprès des Français, mais pas seulement, hein, de la clientèle européenne, le point de l'hygiène et de la sécurité sanitaire arrive en premier. Donc, on réussira plus facilement à ramener vers le Portugal et vers nos hôtels, vers nos restaurants et nos cafés, les touristes, si on réussit à rassurer ces derniers sur l'aspect sanitaire et sur le fait que l'on met vraiment une priorité sur cet aspect-là. Et autre point aussi important dans cette campagne, c'est que ça vise aussi à inciter les hôteliers et les restaurateurs et les professionnels du tourisme, parce que ça concernera aussi, par exemple, les agences d'animation touristique, des agences guidées, ceux qui font des guides dans les villes, des guides touristiques, ceux qui font des activités touristiques, seront aussi concernés par ce label. Donc, il y a aussi toute une phase de campagne auprès de ces professionnels pour les former, les inciter à suivre les préconisations de l'Agence nationale sanitaire portugaise.
Donc, ce sur quoi vous comptez aussi, c'est une espèce de prolongation de la saison. C'est-à-dire que vous ne faites pas… Alors, évidemment, j'imagine que l'été est quand même le moment où il y a le plus de gens. Mais l'automne, l'hiver restent des moments où les flux ne sont pas interrompus.
Complètement, complètement. Alors évidemment que l'été est un moment très important, notamment pour les familles, hein, puisqu'elles sont aussi liées aux vacances scolaires. Mais ceci étant, cette clientèle qu'on appelle nous la clientèle city break, c'est-à-dire court séjour, ces touristes qui vont passer un petit week-end prolongé un peu partout au Portugal, ça fonctionne pratiquement toute l'année. Plus les îles comme Madère ou les Açores qui fonctionnent bien aussi en hiver, notamment Madère qui a toujours une clientèle très forte pour les fêtes de fin d'année.
Et qui fonctionnait de mieux en mieux. Et qui fonctionnait
Les Anglais vont beaucoup à Madère. Hein,
bah oui, il y a un feu d'artifice
exactement.
Exceptionnel.
Les Anglais beaucoup, beaucoup.
Les plus beaux feux d'artifice au monde, c'est Madère.
Les voyages de noces aussi, je crois, chez eux.
Oui, voilà. Et puis, il y a d'autres segments, des segments qui sont très, très intéressants pour la basse saison. C'est les groupes de seniors, par exemple.
Oui,
c'est
beaucoup, là-bas.
Les groupes scolaires. C'est aussi le tourisme d'affaires, tout ce qui est congrès, séminaires. Le Portugal a un énorme succès depuis quelques années sur aussi l'activité des entreprises, donc les séminaires et les congrès. Donc voilà, donc ça, ce sont des activités qui très souvent fonctionnent dans les périodes entre octobre et on va dire mars-avril.
Ok. Ben on va peut-être en profiter pour prendre des nouvelles du Portugal justement, puisqu'on est,
voilà,
on est à 11h30, ce serait peut-être l'ami Vincent Barros qui
exactement. On va vous faire patienter quelques minutes, mais on va passer les nouvelles du Portugal en français. Voilà, c'est une manière originale et c'est ce que nous faisons sur la French Radio tous les jours à partir de 7h30. Voilà, ce qui nous permet d'avoir évidemment un lien très fort avec la communauté francophone qui est ravie parce que tout le monde ne parle pas forcément le portugais. Et bien comme ça, au moins,
ne le maîtrise pas suffisamment.
Voilà, ne maîtrise pas suffisamment, eh bien, nous avons les infos et au moins on sait tout ce qui se passe au Portugal. A tout de suite, on se retrouve dans 3 minutes.
La French Radio Info Portugal, Vincent Barros.
Bonjour à tous. On ouvre exceptionnellement aujourd'hui le Flash Info par une actualité tout à fait étrangère au coronavirus. Ce mardi 5 mai, on célèbre pour la première fois la journée mondiale de la langue portugaise, une journée instituée en novembre dernier par l'UNESCO. Le portugais est aujourd'hui parlé par 260 millions de personnes sur les 5 continents habités. Il s'agit de la première langue de l'hémisphère sud et la cinquième la plus utilisée sur Internet. Le Diario de Noticias consacre ce matin plusieurs articles à cette journée particulière. On y apprend que le portugais, je cite, est le petit-fils du latin et le fils du galicien et que ses origines sont multiples, à la fois celtiques, arabes et germaniques. Et pour marquer cette journée, un grand concours international est lancé. Il est destiné à tous les élèves et étudiants des 76 pays où le portugais est enseigné. Le but, écrire un conte de 3 pages en langue portugaise. Les vainqueurs seront connus le 5 mai 2021. On en vient, comme chaque jour, au bilan épidémiologique de la Direction Générale de la Santé. Si l'augmentation du nombre de morts provoquées par le Covid-19 au Portugal se maintient, celui des cas positifs bondit de nouveau. 242 nouveaux cas ont été recensés ces dernières 24 heures, contre 92 la veille. Désormais, le pays déplore 1063 décès et 25 500 personnes porteuses du virus. Et parmi les patients hospitalisés, 143 se trouvent toujours en soins intensifs. L'industrie textile est à pied d'œuvre. 1 million de masques sont désormais produits chaque jour au Portugal. Le ministre de l'économie, Pedro Siza Vieira, a annoncé en ce début de semaine que le pays avait 2 objectifs. Approvisionner le marché national afin de faire baisser les prix, mais aussi exporter, ce qui est déjà le cas, avec bien sûr les pays européens en ligne de mire. L'État portugais, de son côté, s'est fixé comme priorité de fournir en masques les écoles. 10 millions d'euros, dont un peu plus de 8 millions issus d'entreprises et d'institutions privées. C'est la participation du Portugal à ce que les médias ont appelé hier le Téléthon de Bruxelles. Durant 3 heures, lors d'une campagne en ligne, la Commission européenne a appelé aux dons avec un objectif, financer la recherche et le développement d'un vaccin contre le coronavirus. Au total, 7,4 milliards d'euros ont été récoltés, une somme qui devrait encore augmenter puisque la campagne de dons se poursuit jusqu'en juin. Un mot sur les impôts. Déjà 210 000 contribuables ont reçu leur remboursement lié aux dépenses déclarées l'an passé. La valeur moyenne de ce remboursement s'élève à un petit peu plus de 1 000 euros, indique le ministère des Finances. Au total, près de 3 millions de déclarations d'impôts sur le revenu ont été enregistrées depuis le 1er avril, ce qui correspond à environ la moitié de celles soumises l'année dernière. La date limite pour déclarer ces impôts, pour rappel, est fixée au 30 juin. Pourra-t-on faire ses valises cet été et se rendre au Portugal? Que signifie le label touristique Clean and Safe? Ce sont quelques-unes des questions qui seront abordées ce mardi dans l'émission Les Expats ont le micro à partir de 11h sur notre antenne avec notre invité Jean-Pierre Pinheiro, le directeur de l'Office du tourisme du Portugal en France et au Luxembourg. La météo enfin, après des périodes parfois très nuageuses ce matin, le temps va se découvrir au fil de la journée pour laisser place à un beau soleil. De faibles averses sont attendues sur la côte ouest, de Lisbonne jusqu'à Viana do Castelo. Les températures maximales se maintiennent, avec cet après-midi 22 degrés annoncés à Lisbonne, 24 à Évora et à Faro, 21 à Sagres, et enfin plus au nord, 20 à Porto et de nouveau 22 degrés du côté de Coimbra. Une très belle journée à tous.
Ouais, bah là, je pense que Jean-Pierre, on va vous faire rager. Voilà,
on a parce le sourire quand
là, on a le sourire
ça.
Quand on entend la météo. Hein.
Oui, effectivement, effectivement.
Et puis en plus que, voilà, les gens sont
bon
contents.
Voyage.
Bah ouais, et puis là, les gens en plus, ils ont tous touché. Enfin, en tout cas, beaucoup. La moyenne 1 000 euros de récupérés pour leurs impôts, c'est pas mal. En plus à cette période-là, ça fait toujours plaisir. Jean-Guillaume, je sais que vous aviez une question.
Oui. Bah une question vraiment assez pratique. On voit certains de vos concurrents, notamment la Sicile, les Italiens.
Oui, j'ai
qui,
vu ça.
Font des offres
plus,
carrément chiffrées.
Plus qu'à l'échange.
en disant une journée, une nuitée d'hôtel sur 3 payée, on vous rembourse une partie du billet d'avion, etc. Est-ce que ce genre d'incentives font partie de votre arsenal ou pas du tout?
Alors, il y a beaucoup de choses qui font partie de notre arsenal pour relancer, on va dire, la machine. D'abord, nous travaillons beaucoup et nous investissons beaucoup sur les campagnes co-brandées avec les tour opérateurs et les compagnies aériennes. C'est-à-dire que nous les aidons aussi financièrement à relancer un petit peu la machine et pour les tour opérateurs aussi, puisqu'on n'a pas évoqué aussi la partie des tour opérateurs, donc des opérations, des agences de voyage. C'est aussi très important qu'elles reprennent leur vente sur la destination. Concernant le cas de la Sicile, il va concrètement donc proposer des nuits d'hôtel, participer en nuits d'hôtel et ou une part, je crois, aussi de l'aérien, du pied d'avion. Ça fait partie des nombreuses pistes que nous étudions. Pour l'instant, je dois vous avouer que ce n'est pas forcément notre piste préférée. On étudie plusieurs cas de figure, probablement par l'intermédiaire aussi de nos partenaires tour opérateurs et compagnies aériennes. On réfléchit notamment à des solutions éventuelles autour des vouchers. Vous savez, donc, comme beaucoup de Français se retrouvent avec des vouchers valables 18 mois, l'idée, c'est d'inciter ces Français qui détiennent ces vouchers, d'abord à ce qu'ils les réutilisent le plus rapidement possible, qu'ils n'attendent pas 18 mois, et si possible, qu'ils l'utilisent en partant au Portugal.
Attendez, on a eu un petit souci d'Internet avec vous. À mon avis, la liaison entre la France et le Portugal doit être un peu saturée.
Donc on était au moment où
vous expliquiez justement comment allait fonctionner le voucher.
Faire en sorte que les gens utilisent le plus rapidement possible.
Voilà, oui, l'idée c'est que les gens, c'est d'inciter ce que nous réfléchissons à des solutions pour inciter les Français qui ont ces vouchers et les réutilisent et si possible les réutilisent chez nous au Portugal. Il y a plusieurs pistes qui sont étudiées. La piste toutefois donc de l'aide concrète en termes d'aérien ou d'hôtellerie, pourquoi pas. Ce sont des discussions qui sont faites en ce moment à notre siège. Nous savons aussi que le cabinet de la secrétaire d'État au tourisme avec Tourisme du Portugal réfléchissent à plusieurs pistes et je pense que nous serons en mesure dans quelques jours ou très rapidement dans quelques semaines annoncer quelles seront les pistes que nous aurons choisies.
Donc, on peut imaginer par exemple que vous disiez, je sais. Vous avez un voucher, vous avez un avoir de 100 euros. Si vous l'utilisez sur le Portugal, on le bénéficie cet avoir, par exemple. C'est imaginable.
Oui, voilà, il y a plusieurs pistes, comme ça a déjà été fait par le passé, notamment avec quelques régions. Je pense à des opérations qu'avait faites en France, par exemple, Madère. Je me souviens très bien, où lorsque le client achetait chez un tour opérateur partenaire un séjour, il pouvait se voir offrir, par exemple, une balade, une excursion complémentaire ou un soin dans un spa, enfin voilà, des activités, des expériences supplémentaires. Donc, il y a des pistes qui sont envisagées, mais forcément, ça doit passer aussi par des discussions avec nos partenaires tour opérateurs et aussi avec leurs partenaires à eux des tour opérateurs, c'est-à-dire les réceptifs, les agences réceptives qui s'occupent de leurs clients une fois qu'ils arrivent sur le territoire portugais. Donc, c'est un travail et une discussion qui doit être mutuelle entre donc, ceux qui font la production, donc les tour opérateurs, ceux qui sont leurs partenaires sur place, les réceptifs, les hôteliers. Donc voilà, c'est une discussion, je pense, il faut qu'on se mette à plusieurs autour de la table pour discuter sur différentes pistes.
Mais en fait, visiblement, d'après ce que vous me dites, l'opération de la Sicile, c'est un peu, c'est, d'un point de vue médical, c'est vraiment la réanimation. Et vous sentez-vous que la destination du Portugal a quand même un certain dynamisme, ne serait-ce que du fait des luso-descendants qui, à travers toute l'Europe, vont revenir quoi qu'il arrive.
Oui, voilà.
Oui, qu'il n'y aura pas besoin de ça.
En général, nous ne sommes pas très fans des opérations où l'on subventionner, c'est quelque part une subvention, donc donnée aux clients. C'est un petit peu comme la politique des promotions. Il y a des destinations, on est d'ores et déjà conscient de cela. Il va y avoir des destinations qui vont, là pour cet été, pratiquer de très fortes promotions. Je pense que ce n'est jamais un très bon terrain parce que c'est très difficile après de revenir à des bases saines. On l'a vu, on ne va pas citer des destinations. Il y a des destinations qui ont beaucoup fonctionné comme ça et qui aujourd'hui n'arrivent pas à remonter des tarifs normaux. Donc, ça n'a jamais été la politique du Portugal.
Non, mais c'est une bonne idée, objectivement, donc, au niveau du voucher, de dire, voilà, quelqu'un qui devait partir, qui devait se rembourser, évidemment, son billet d'avion, qui avait un voucher de disponible pour retourner dans la même destination dans 6 mois, dans 1 an, plutôt d'attendre 6 mois ou 1 an pour pouvoir en bénéficier, tout en sachant pas finalement s'il pourra réellement en bénéficier à la date dans 6 mois ou 1 an, eh bien c'est anticiper les choses. Ce voucher, vous le transformez et vous pouvez venir directement au Portugal cet été. Donc au moins, vous n'avez pas perdu votre argent. Et au contraire, on va le faire bonifier.
Et puis il faut savoir aussi que, avoir en tête que nous investissons beaucoup dans des campagnes et dans des partenariats avec les tours opérateurs et les compagnies aériennes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous investissons beaucoup sur les campagnes de communication avec ces partenaires, et donc nous préférons privilégier la piste donc des partenariats et des cofinancements de campagnes avec les compagnies aériennes et les tours opérateurs plutôt que de faire des subventions ou des promotions, voilà, comme a priori devrait faire la CICIP, puisque j'ai cru comprendre que c'était une prise en charge directement par les autorités,
oui.
Et donc par la partie institutionnelle et non pas par les privés et par les opérateurs.
Ah oui, c'est ça.
Donc on a ouais, effectivement. Donc on a vu que pour l'aérien, bon, a priori.
En même temps, la situation d'Italie a été quand même ouais. beaucoup plus.
C'est vrai que nous on a été très privilégiés, très, privilégiés, et donc, très préservés. Et vraiment, on le dit tous les jours, et c'est ce qu'on dit aussi tous les jours sur l'antenne, c'est qu'on remercie vraiment la population et
le
civisme que les personnes ont pu avoir au Portugal. Voilà. Et c'est ce que dit d'ailleurs l'ensemble des personnes de la communauté francophone, c'est vraiment de se sentir oui. très très bien ici. Alors moi j'ai une personne.
Aussi, juste une petite chose, si vous le permettez, c'est que d'abord, nous pensons que nous avons des atouts qui devraient suffire pour rassurer le touriste et qu'il y ait une reprise la plus rapide possible. Mais par ailleurs, il est important aussi de noter, c'est effectivement ce que vous évoquez, l'image très positive dont bénéficie le Portugal et d'une manière générale, mais en l'occurrence aussi par rapport à la gestion de la crise sanitaire. On voit, et on l'a vu d'ailleurs ces derniers jours, des reportages dans le journal de TF1, notamment
oui,
le 20h ou
beaucoup,
le 13h,
beaucoup de reportages.
8 millions de téléspectateurs, où l'on présentait très, très, de manière très positive le Portugal et sa gestion du Covid. Donc tout ça contribue aussi à divulguer une image positive et à rassurer.
Ils ont même parlé de nous. Ils ont même parlé de nous sur le JT. Donc on était contents.
C'est vous dire, c'est vous dire s'ils sont bien informés.
C'est vous dire, ils ont dit une radio francophone ou française à Lisbonne.
Ils ne nous ont pas cités.
Ils ne nous ont pas cités. Ils se sont dit, on va leur faire trop de pub. Mais quelque part, ils nous ont cités indirectement. Donc on était contents. Moi, j'ai une dame qui vient de nous écrire en disant « Bonjour, nous avons acheté une maison à Zetao et nous aimerions venir en voiture en juillet et en août parce que ça, on n'en a pas forcément bien parlé. Nous sommes en Belgique. Pourra-t-on passer les frontières France et Espagne ?» Merci de votre réponse.
Alors,
parce que les gens se posent beaucoup
prévu,
de questions avec, la,
prévu,
avec les voitures.
Des discussions. Oui, il est prévu, il fait partie des discussions avec nos partenaires européens. Logiquement, il y aura des décisions qui seront globales sur l'espace Schengen. Et normalement, il n'est pas prévu qu'il y ait de contrariété, on va dire, au niveau des frontières pour quelqu'un qui passerait en voiture entre la France, l'Espagne et le Portugal. Sauf si évidemment la situation se dégradait, mais à l'heure actuelle, il n'est pas du tout prévu cela. Et d'ailleurs, on compte beaucoup aussi sur une bonne partie de la population française, notamment tout le sud de la France, qui voyage beaucoup en voiture, notamment les familles, qui prennent beaucoup la voiture pour venir en vacances au Portugal chaque été. Donc, on compte beaucoup également sur la partie des arrivées par la route.
Donc, on va le dire, à l'heure actuelle, les vacances s'annoncent relativement bien au Portugal.
Bien, mais masqué.
Voilà. Par contre, il faudra évidemment garder les règles
sécurité,
et les distances de sécurité, les distances barrières. Ça,
et s'appliquer au civisme du pays.
Voilà. Et
la
ça
question,
s'appliquer.
D'ailleurs, la question des les plages vont rouvrir très prochainement, mais dans un premier temps, là maintenant, en mai, à l'activité nautique uniquement, et on n'est pas censé donc rester sur la partie du sable, si vous voulez. En revanche, à partir de juin, tout ça va s'ouvrir progressivement, et normalement, à partir de juin, les plages sont réouvertes. La grande question encore aujourd'hui est de la gestion des touristes au niveau des plages. C'est en discussion, pas uniquement au Portugal, mais aussi en France. C'est une question très, pas très simple à résoudre. Donc, on pense que nous aurons des nouvelles de la part du gouvernement et des autorités portugaises dans les prochains jours, prochaines semaines, pour savoir comment va-t-on pouvoir gérer les touristes au niveau de la côte et des plages. Alors après, on a la chance d'avoir une côte assez varié, même
voilà,
si c'est
y a
vrai
beaucoup de
que
plages.
Les
il y a beaucoup
rêver,
de plages.
Beaucoup de touristes qui cherchent le balnéaire, mais on a d'autres plages, on a une côte assez large, je pense à Comporta, je pense à la côte de la Ligue Tejo, à la côte du Nord.
Voilà, c'est suffisamment
c'est
grand pour pouvoir...
Même en Algarve, il y a beaucoup de zones en Algarve qui sont beaucoup moins fréquentées, on a des plages, même en été, où parfois on peut trouver ça étonnant, mais même en plein été, on a des zones en Algarve où on peut retrouver des plages je ne vais pas dire déserte, mais vraiment très peu fréquenté, que ce soit à l'extrême ouest ou à l'extrême est de la région.
Bon, ben en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces bonnes nouvelles, Jean-Pierre Pinheiro. Donc, je rappelle que vous êtes le directeur de l'Office du tourisme en France et au Portugal de l'Office du tourisme du qu'est-ce que je raconte ?
L'Office du tourisme,
l'Office du tourisme du Portugal en France et au Luxembourg. Je voulais dire en France et au Luxembourg et j'ai dit au Portugal. Vous voyez, le Portugal m'obsède beaucoup.
Donc, vous y vivez, c'est pour ça.
En tout cas, on a d'excellentes nouvelles à l'heure actuelle à pouvoir donner. Donner surtout à toutes les personnes qui nous écrivent, qui sont en France, en Belgique, dans d'autres pays, aussi au Luxembourg, nous disant est-ce qu'on pourra venir rejoindre soit la famille, soit. Voilà. Donc, oui, a priori, tout va bien se passer. Il y aura des avions. Maintenant, effectivement, la règle des deux tiers, un tiers sera applicable ou pas. Ensuite, bien, des efforts vont essayer d'être faits sur l'aspect tarifaire, ça on en a parlé. Et puis, bien entendu, les gens pourront se rendre au Portugal en voiture, comme ils en ont. Et tout sera réouvert, les plages et tout, à partir du moment où nous devrons conserver chacun nos distances dites de
sécurité. Après, l'organisation n'est pas encore établie, mais je pense qu'ils vont trouver quelque chose d'intelligent.
Et puis, surtout, la norme portugaise qui a été mise en avant, qui s'appelle Clean and Safe. Ça, rappelons-le, qui est une mesure qui va essayer de protéger au maximum les touristes et toutes les personnes qui se rendront dans les hôtels, les restaurants, tous ceux qui auront adhéré, qui auront le logo, donc en tout cas, qui sera à
pause.
Voilà, c'est un petit peu comme ça que ça va se passer.
C'est pris très, très, très au sérieux. Ces questions-là sont prises très au sérieux et. Nous sommes vraiment contents qu'il y ait une adhésion très forte, très très forte de la part et une mobilisation des professionnels portugais, de l'hébergement dans un premier temps, des entreprises touristiques, d'animation touristique, des hôtels clubs et très prochainement des restaurants et des cafés puisqu'il y a une deuxième phase pour les restaurants et les cafés qui nécessite des discussions avec les organismes représentatifs de la restauration et de l'hôtel et des cafés. Donc c'est très important et vraiment c'est un engagement aussi de la part de ces professionnels pour dire voilà, soyez rassurés, on fera le maximum pour que vous soyez reçus dans les meilleures conditions possibles. Et d'ailleurs j'ajoute, aussi bien pour les Français que les Luxembourgeois, qui n'hésitent pas à consulter régulièrement notre site Visite Portugal à la rubrique Covid-19 qui actualisera tous les jours, quotidiennement, l'information, l'état des lieux, les règles pour les plages que j'évoquais tout à l'heure, tout ça sera mis à jour quotidiennement donc, sur le site pour informer les potentiels visiteurs.
Voilà, et en même temps, j'en profite aussi pour rappeler à nos auditeurs, de la même manière, d'aller sur le site de l'ambassade de France à Lisbonne, qui lui aussi est mis à jour en termes d'information, et qui quotidiennement, et vraiment on félicite les équipes de l'ambassade de France, parce qu'ils ne sont pas très nombreux et qui travaillent quotidiennement pour mettre à jour les vols, essayer de tenir un petit peu toutes les informations utiles, et qui font ça depuis des mois, enfin deux mois tout particulièrement et qui sont vraiment toujours aussi dynamiques, donc vraiment on les félicite. D'ailleurs nous aurons Madame l'ambassadrice de France, donc Florence Mangin, en direct sur la French Radio dans quelques jours. Voilà, à partir du moment où les mesures seront tombées, sera intéressant de pouvoir l'avoir en interview en direct pour justement pouvoir répondre un petit peu à toutes les questions. Jean-Pierre Pinheiro, merci beaucoup. Merci pour être venu nous rendre visite sur visite virtuelle. Hein, je le dis, mais bon, on espère quand même qu'on aura peut-être l'occasion de vous voir cet été au Portugal.
Ben écoutez, merci à vous. Ça a vraiment été un plaisir d'être avec votre équipe et avec vos auditeurs. J'aurai vraiment plaisir, effectivement, à la prochaine visite. Comptez sur moi à venir boire un café avec vous. Sur une terrasse au soleil, ça fait rêver rien que de parler de ça.
Ouais,
déjà.
Ça fait rêver la terrasse.
Au bord de mer. Au bord de mer.
On en rêve. Hein.
Donc, je viendrai avec plaisir vous voir sur place. Et puis, un petit message aussi aux Français présents au Portugal. On souhaite beaucoup de courage aussi, bien entendu, à tous ceux qui ont une activité aussi professionnelle. Parce qu'il y a pas que des retraités au Portugal, il y a aussi beaucoup de Français qui sont installés. Qui ont une activité, des start-up, des entrepreneurs sur différents secteurs. On souhaite beaucoup de courage à tous, évidemment,
aussi, hein.
Mais aussi à toute la population portugaise. Vraiment beaucoup de courage et que la reprise soit la plus rapide possible pour que tout le monde puisse reprendre une vie normale.
Et je peux vous dire que la communauté francophone...
Et on espère vite un remède à ce virus, surtout.
Au Portugal, c'est vraiment très vite mobilisé qu'aujourd'hui, de nombreux restaurateurs se sont mis à faire du takeaway. On a vraiment des gens qui ont cherché à remettre en question, en tout cas, les modèles classiques pour pouvoir justement... des gens qui se sont mis à faire des livraisons, enfin vraiment...
Oui, à grouper même des livraisons.
À grouper des livraisons. d'émissions au sein même de la communauté francophone ou autre. Beaucoup de gens se sont vraiment mobilisés. C'est impressionnant de voir justement...
Des élans de dynamisme.
Ouais, cet élan de dynamisme et ce soutien justement de cette communauté ici au Portugal avec vraiment tout le plaisir que l'on a y vivre. Voilà.
Ouais.
Je tiens vraiment à...
C'est vrai que la population francophone, notamment les Français, sont très vite intégrés. C'est-à-dire qu'il y a quelques pays qui ont investi aussi au Portugal dans l'immobilier, qui sont venus s'installer au Portugal, je ne citerai pas de nom, qui se sont plus enfermés dans des resorts, alors que le Français, non. Les Français aiment prendre les appartements, les maisons en plein milieu, donc des villages, et se mélangent vraiment à la population. Et c'est une population qui est très, très bien acceptée au Portugal, qui est très appréciée parce que, voilà, il y a vraiment une amitié entre historique. Hein,
historique,
entre
voilà, il y a une grande histoire entre le Portugal.
Une grande histoire, et vraiment, il y a une amitié, une sincérité, il y a vraiment une relation très forte entre nos populations, et c'est vrai que ça marche très très bien, et les Portugais sont ravis d'accueillir tous ces Français, ces francophones au Portugal.
Et bien en tout cas,
le premier roi du Portugal était français.
Déjà, voilà.
Ah, donc, ça fait longtemps, mais bon.
tout s'explique.
Merci beaucoup en tout cas, Jean-Pierre Pinero.
Merci beaucoup.
Et puis en tout cas, à très bientôt. Si vous avez des nouvelles à nous apporter, eh bien, on sera ravis de vous redonner
nouveau.
La parole sur l'antenne de la French Radio,
parce que
nous sommes à l'écoute de toutes ces informations. On est preneur d'informations, et ça rassure en tout cas les personnes,
auditeurs.
Et surtout, ça leur fait plaisir de savoir que cet été, eh bien, les familles pourront se retrouver et les gens pourront venir en tourisme. Pour faire du tourisme
avec,
au
bien
Portugal.
Avec, bien sûr, des règles de sécurité.
Et puis peut-être
sûr.
En même
on
temps voir le
même.
Portugal autrement, parce qu'il n'y a pas que la mer, il y a plein d'autres choses à voir.
Exactement.
Il y a les arrière-pays, et ça, il ne faut pas l'oublier. Et
il y a
ce
plein
pays,
de belles
oui,
choses
et puis
courir.
Des plages, il y en a beaucoup. Il y a place pour tout le monde, très très loin l'un de l'autre.
Magnifique, magnifique ce pays. Voilà, une
tout
fois qu'on
possible.
Le voit, on peut découvrir plein de choses. À très bientôt, Jean-Pierre. Merci à vous.
À
merci,
bientôt.
Bon après-midi.
Au revoir, Jean-Pierre.
Merci, au revoir.
Voilà, on se retrouve donc sur l'antenne. On va peut-être se passer une musique. Allez, une chanson. Allez, un peu de musique.
Vous avez amené vos cassettes ?
Écoutez, Fika Tudobem,
oui,
Anita, voilà, c'est
Anita
pas mal
et
ça.
Silva.
Anita et Silva, voilà, un petit
peu.
Un peu
de Brésil.
Un peu, voilà, allez, c'est, voilà. Et on se retrouve dans quelques instants.
Si você voltar pra ela, tente não se arrepender. Vai ser difícil amar alguém sem se querer. Melhor fazer valer a pena, e é bem melhor se conhecer. Nas coisas do amor convém pagar pra ver. E fica tudo bem, fica tudo bem. Fica tudo bem, fica tudo bem. Eu posso não saber de tudo, melhor às vezes nem saber. Mas uma coisa eu sei, ninguém vai te dizer. Fica tudo bem, 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 fica tudo bem. Thank you.
c'est si beau.
C'est beau, hein? Allô, je n'ai plus Jean-Guillaume. Jean-Guillaume,
bah, Jean-Guillaume est stupéfait de cette douceur.
Il était en, voilà, en train de...
Je médite.
Méditation. Sympa, hein? Bon, eh ben, en tout cas, voilà les bonnes nouvelles. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ben oui, oui, ben, ça va se décanter, oui.
Donc, un petit peu de temps, il va falloir attendre le mois de juin. Mais c'est dans 15 jours, dans 3 semaines. Et puis, voilà, les choses vont reprendre un petit peu leur cours. Peut-être
vous savez qu'hier, il m'est arrivé un truc de Raymond DeVos. C'est-à-dire que je voulais aller au supermarché acheter des piles.
Ah, vous m'avez... Ouais, ouais.
J'ai une vie trépidante. Hein. J'ai une vie trépidante.
Ouais. Donc, cette période, tout est trépidant. Hein.
Ah ben non, mais c'était un truc de dingue. Je pars pour le supermarché pour aller acheter des piles. Et je vais pour rentrer dans le supermarché. La vigie me dit non, vous n'avez pas de masque, vous ne pouvez pas entrer. Ah, je me dis, bah oui, évidemment. Alors, je sors du supermarché, je vais à la pharmacie pour acheter un masque.
Bah oui.
Et là, la pharmacienne me dit, non, vous ne pouvez pas entrer, vous n'avez pas de masque. Je dis, oui, mais je veux entrer, je veux acheter un masque. Donc... on ne peut pas entrer dans la pharmacie sans masque. Alors, on fait comment pour aller acheter un masque dans la pharmacie? Elle m'a servi sur le trottoir très gentiment quand même.
Ah, quand même. Bah oui, bah ça, c'est, ouais. C'est le point positif. Bon, bah super. Et bah, donc, vous avez fini par avoir vos masques, en fait.
Oui, 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 mais je me suis dit, à un moment, c'est les sens interdits de Raymond DeVos.
Ah ouais, c'est clair. Alors, je rappelle quand même que la législation est quand même là qu'il faut porter des masques. Hein. Je le dis quand même, quand on est dans la rue, c'est mieux d'en porter que de ne pas en porter. Et alors, tout particulièrement, là, c'est obligatoire si on circule dans les transports publics. Et sinon, on peut avoir une amende.
Et dans les magasins aussi.
Les magasins aussi. Et c'est 300.
Il y a longtemps que je n'étais pas allé dans un magasin.
Et c'est 350 euros. Voilà, donc ça vous le rappellera très rapidement. Voilà.
Alors que le masque, c'est 1 euro. Hein. Moi, j'ai payé 1 euro.
Ouais, c'est ça. Même un peu moins cher. Et on rappelle qu'aujourd'hui, maintenant, le Portugal fabrique des masques en millions d'exemplaires et qu'il livre maintenant de nombreux pays européens. Donc ça, il faut le savoir, ce sont toutes les industries textiles basées principalement au nord du Portugal qui se sont reconverties, ou en tout cas qui se sont converties à la fabrication de masques. Et qu'aujourd'hui, bah, d'abord, c'est un nouveau...
C'est un nouveau marché, c'est très intelligent.
Et qui permet, en même temps de recréer de l'activité dans des professions qui étaient lourdement touchées. Rappelons-le aussi. Dans moins de 2 minutes, on va passer les infos. Qu'est-ce que vous en pensez? Puis on va prendre contact avec.
Ah bah oui, ça va être les infos, bien sûr.
Les infos de 2 minutes.
Ouais.
Voilà, déjà, je peux déjà vous dévoiler un début d'information. Eh bien, vous savez, il y avait
non.
un grand.
Ah,
il y
mais
avait...
laissez-le mais non, découvrir.
Mais non, parce que je ne sais pas. Mais connaissez Arnaud Lagardère?
Bah oui, qui reconnaît pas.
Oui, j'ai entendu parler, oui, un espèce de type qui se prend en photo avec sa belle-mère. Là, oui.
Non.
Et Arnaud Lagardère était en train peut-être de perdre la présidence de son groupe, du groupe Lagardère.
Ça fait des années que c'est.
Oui, mais là, c'était vraiment très, très chaud parce qu'il y avait le fonds Amber qui était en train d'activer. Eh bien, l'information est tombée il y a quelques minutes. A priori, il aurait sauvé son poste. En tout cas, le vote lui aurait été favorable.
Ce qui serait important, c'est que Lagardère reste français. Mais alors lui, honnêtement, en tant que président, je ne suis pas certain que ce soit le choix numéro un. Mais ce qui est important, c'est que l'entreprise reste française parce que beaucoup d'armements, de médias, etc. Si tout ça, ça tombe encore aux mains des Américains.
Oui, ou d'autres...
On leur a donné une partie de la bombe nucléaire.
Allez, on va écouter les infos, puis ensuite on va se retrouver avec François.
Avec Arnaud Lagardère?
François est-il
non,
en ligne?
Non, mieux que ça, François, le président de Baudouin.
François, le président
de la holding, du consortium.
François, bonjour.
Bonjour Thierry, bonjour Jean-Guillaume.
Bonjour.
De bonheur et de bonne humeur ce matin. Bonjour Florence.
Écoutez, c'est normal qu'on soit de bonne humeur avec les bonnes nouvelles que nous avons eues, que Jean-Pierre Pinero nous a données pour cet été.
Je serais moins optimiste, mais ce qui est bien, ce qui est très bien, ce qui est génial, c'est que tous les gens travaillent sur le fait qu'on puisse tous partir en vacances cet été d'une façon ou d'une autre.
Voilà.
Et quand on est au Portugal.
Je suis un peu moins optimiste aussi, mais bon.
Mais s'il faut garder.
Non, mais là, j'étais en train de lire. Il y a une info qui est tombée là au niveau de la communauté européenne. Ils travaillent pour des règles harmonisées.
Absolument.
Qui va réduire l'incertitude sur je veux partir dans tel pays, quelles sont les règles applicables.
Exactement.
Ça serait génial.
Voilà, Thierry Breton travaille là-dessus. Je rappelle qu'il est commissaire européen et c'est lui qui est en charge justement de ce dossier. C'est prévu autour du 13 ou du 14 mai. Donc, c'est dans quelques jours. Allez, c'est l'heure des infos. On se retrouve dans quelques instants. Les infos de la rédaction de Paris. Il est exactement midi sur la French Radio.
La French Radio, la radio de tous les francophones au Portugal. La French Radio, votre radio, notre radio.
Bonjour, rassurer et convaincre, c'est l'objectif de la visite du chef de l'État dans une école des Yvelines. Aujourd'hui, accompagné du ministre de l'Éducation, Emmanuel Macron et Jean-Michel Blanquer sont arrivés portant un masque noir un peu avant 11h à l'école Pierre de Ronsard de Poissy. Ils ont échangé avec le maire de la ville, Carl Olive, la rectrice d'académie, la direction de l'école, puis ont pu visiter plusieurs classes et discuter avec des enfants de soignants accueillis depuis le début du confinement, ainsi que des enseignants. Le président de la République a ensuite participé à une réunion en visioconférence avec plusieurs élus et directeurs d'école du département. Il doit prendre la parole devant la presse en ce début d'après-midi. Notez qu'à Paris, la rentrée est repoussée au jeudi 14 mai. En Guadeloupe, les élus ont tranché. La rentrée se sera en septembre. Une décision prise pour protéger les familles, mais aussi en raison du coût trop élevé du protocole sanitaire à mettre en place. 50e jour de confinement en France aujourd'hui et parmi les inquiétudes à 6 jours de la levée progressive du dispositif, les transports en commun, les masques y seront obligatoires dès lundi. Le secrétaire d'État Jean-Baptiste Djebbari a annoncé que le gouvernement en mettrait 9 millions à disposition pour pallier les éventuels oublis avant que les sanctions ne tombent. De son côté, le ministre de la Culture, Franck Riester, promet un dispositif spécial pour les intermittents du spectacle, fortement touchés après ces 50 jours de confinement. Ils réclament une année blanche. Le prolongement de l'état d'urgence sanitaire au menu du Sénat aujourd'hui. Les sénateurs veulent y inscrire des garanties essentielles, notamment sur le suivi des malades du virus et sur la responsabilité des maires. Côté bilan, la France a dépassé la barre des 25 000 morts. L'épidémie a causé un peu plus de 300 décès supplémentaires en 24 heures. Le nombre de patients en réanimation continue de baisser, moins de 4 000 actuellement. Et puis l'Espagne vient d'annoncer 185 victimes de plus du Covid-19, un bilan inférieur à 200 pour la troisième journée de suite. Enfin, la quasi-totalité des marins du Charles de Gaulle qui avaient été infectés par le virus sont guéris, selon le porte-parole de la Marine nationale. 2 marins restent hospitalisés et 18 sont toujours isolés à Toulon. Plus d'un millier de militaires avaient été testés positifs au Covid-19 le mois dernier à bord du porte-avions. Voilà pour l'actualité. Très bon après-midi à vous.
Voilà, merci beaucoup. Alors, peut-être que sur le Charles de Gaulle, pour la Marine nationale, bien eux, ils ont peut-être atteint finalement le taux qui était souhaité de plus de 70% de gens.
Vous écoutez la French Radio.